Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos nós, Passagem de Nível, neste domingo, dia 20 de Abril. Os temas, vamos falar muito sobre o 25 de Abril, as comemorações, vai ser do 51º aniversário, mas enfim, para já vamos abordar a situação na Santa Casa da Misericórdia, que não é a melhor hoje, a propósito do 25 de Abril, inauguração da Praça de la Revolução, diz aí, 25 Abril, 1974, na localidade de Saint-Martin-d'Hères, no departamento de l'Isère. Comemoração igualmente da Revolução dos Escravos, mas desta feita em Estrasburgo. Exposições, conferência, debates e testemunhos do que viveram a Revolução. E depois, igualmente, sem esquecer, a exposição que está patente no Consulado-Geral de Portugal em Paris, ainda alusivo ao 25 de Abril, com trabalhos de alunos de várias secções de português nas secções internacionais aqui na região parisiense. Um livro, Les Passeurs de Révolte, étudiant et secteurs étrangers postcoloniaux dans les années 1968 et depois, algo que já foi lançado pela administração Donald Trump, que enviou um questionário ideológico dos Estados Unidos às universidades de vários países, incluindo a França e Portugal. E para já vamos abordar precisamente a situação na Santa Casa da Misericórdia. A nossa convidada é a Hilda Nunes, provedora desta instituição, a abordar questões relativas na medida em que a Santa Casa está a viver um momento particularmente difícil, encontra-se sem sede própria e está presente pontualmente, no Santuário Nossa Senhora de Fátima.
Muito bom dia, Arthur Silva. Exatamente, obrigada pela possibilidade de dizer umas palavras sobre a situação da Misericórdia de Paris. Efetivamente, desde o dia 1 de Abril, que nós estamos sem local administrativo e, felizmente, o padre Nuno Aurélio permitiu-nos ficar lá algum tempo, mas é uma situação muito complicada para já. Os horários são diferentes, para receber as pessoas temos efetivamente um pequeno local para receber as pessoas, mas não é assim tão fácil como isso. E também levámos para lá alguns dos móveis que tínhamos na Porte de Ovo e continuamos, portanto, à procura de locais. Até aqui não encontramos, ou porque são muito caros, ou porque não têm as condições necessárias para que a Misericórdia possa ocupar os locais.
Ora, Hilda Nunes, há que referir que, por enquanto, impossível de ter o contacto telefónico habitual, de maneira que, para vos contactar, terá que passar obrigatoriamente por e-mail. Isto vai limitar, porque as pessoas que estão em situação de precariedade nem têm sempre acesso à internet.
Exatamente. Inclusive, a grande maioria das pessoas que fazem apelo à Santa Casa não têm um computador, não sabem funcionar com o computador, etc. O número de telefone, estamos, uma boa notícia, estamos a tentar ficar com o mesmo número de telefone e que esteja a funcionar dentro em breve. Portanto, se as pessoas que me estão a ouvir ouvirem esta informação, podem tentar. Não quer dizer que consigam nos próximos dias, mas estamos a tentar, porque é essencial termos um número de telefone de contacto, porque senão a Santa Casa não, atualmente não tem razão de ser. A partir do momento em que não consegue responder às pessoas que precisam dela, pois nossa função deixa de existir, porque é essa a principal. Claro que organizamos alguns eventos de lazer, de festa, mas é simplesmente para angariar fundos. A nossa atividade principal e única é a ajuda às pessoas que têm dificuldades. E por isso temos que ter locais dignos desse nome e uma linha telefónica também para a qual as pessoas possam responder, enfim, telefonar e que nós respondamos quando nos telefonam, claro.
E dando-nos uma questão, e rapidamente, o clube dos 25, ou seja, empresas para solidariedade, um certo número delas de empresas já responderam, mas outras muito ainda faltam, não é?
Exatamente. Já responderam e agradeço, deixo aqui os meus agradecimentos francamente, àquelas que já responderam, mas faltam-nos ainda muitas. Nós fizemos um cálculo com 25 empresas aderentes a este clube, poderíamos funcionar talvez mais facilmente, mas ainda estamos muito longe do número 25. Faço apelo a todas as pessoas que estão a ouvir ou que possam comunicar com empresas para solicitar, portanto, a adesão a este clube. É uma boa ação. Além disso, podem descontar praticamente 70%, ou 66,6% dos impostos, porque nós podemos dar um recibo CRFA. Portanto, é, no fundo, é pouco mais de 30% do montante que dão. E as pessoas em particular também. Quer dizer, aqui nós criámos este clube dos 25 de empresas, mas qualquer pessoa que queira fazer um donativo à Santa Casa, por pouco que seja, nós podemos dar um recibo e que podem, todos poderão descontar quase 70% do montante do donativo.
Irlanda Nunes, outra questão, a coleta de Páscoa 2025, e trata-se de, por exemplo, recolher produtos alimentares e de higiene, termina no dia 21 de abril, ou seja, neste domingo, mas a coleta é durante todo o ano, não é?
Exatamente, portanto, esta foi a Páscoa, que em princípio termina já, mas claro que nós precisamos de alimentos durante todo o ano. Quando se recolhe esses alimentos, durante algum tempo tem-se bastantes produtos e depois, de repente, somos obrigados a comprar, como qualquer outra pessoa, mas nós não é para nós, é para as pessoas que estão em dificuldade. Portanto, isso também implica verbas gastas com a compra desses produtos. Qualquer momento do ano que queiram fazer um donativo alimentar, basta contactar a Misericórdia e nós até vamos buscar os alimentos onde eles estiverem, se for necessário, ou se as pessoas puderem trazer ao futuro local da Santa Casa. Esperemos que seja rapidamente. Também faço apelo a qualquer pessoa que tenha conhecimento do local que esteja disponível, com facilidades de acesso, porque muitas pessoas, ou por problemas de saúde, ou por idade, ou porque são mães com crianças pequenas, etc., não é fácil ir a locais em que os transportes não cheguem facilmente. Portanto, tem que ser um local com facilidades de acesso e que não seja muito caro. E já agora gostaríamos de, finalmente, ao cabo de praticamente 31 anos de existência, gostaríamos de ter um local onde nós pudéssemos instalar a Misericórdia, não digo definitivamente porque nada é definitivo, mas por muitos anos, e que se possa receber as pessoas, que se possa ter até outras atividades que são também muito úteis para a nossa comunidade, que nós poderíamos exercer sempre na ajuda, sempre com a ideia da ajuda, mas, por exemplo, até aulas ou ajudas para preencher documentos, outros documentos, a não ser só aqueles que são para enviar para a administração, para ajuda aqui ou ali. Portanto, nós gostaríamos de alargar as atividades da Santa Casa, mas para isso temos que ter locais e, portanto, capacidade para isso.
Eu não uso uma última questão e continuamos da solidariedade. 15 de junho de 2025, a marcha ou corrida solidária, como já é hábito, Domaine de la Cour Roland, em Jouy-en-Josas, no Departamento 78, as inscrições estão abertas.
Exatamente, as inscrições estão abertas. Esperamos que este ano, nós mudámos, portanto, era em outubro, passámos para junho, fazendo votos para que não chova nesse dia, no dia 15 de junho. Será um momento fantástico. Já no ano passado tivemos jogos para crianças, este ano vamos alargar mais essa atividade destinada às crianças também. Há a marcha para as pessoas que não querem correr. É uma festa. Claro que há medalhas também para aqueles ganhar o primeiro, segundo e terceiro prémio, mas é sobretudo uma festa lazer, convivial, de amizade, de partilha, de solidariedade, efetivamente, porque tudo, todo o montante que restar depois de todas as despesas, porque nós temos despesas, como devem imaginar, com as atividades que lá são feitas, na compra das medalhas, etc, etc. Portanto, mas tudo o que ficar será para ajudar as pessoas carenciadas. Portanto, venham com os avós, venham com os netos, venham todos. E será um dia bem passado e um dia também solidário, e no fim do dia sentimos-nos muito bem quando fazemos qualquer coisa também em relação àqueles que precisam.
E como dizia José Afonso, terá com mais 5. 5 ou 10 ou 15 ou 20.
Exatamente. Trago. E José Afonso tinha, o nosso Zeca Afonso dizia isso já há largos anos, mas continua a ser a realidade, e quantos mais vierem, melhor. Trago mais 5 e todos aqueles que quiserem.
Hilda Nunes, muito obrigado.
Obrigada, Artur Silva. Obrigada à Rádio Alfa por estar sempre ao nosso lado. Obrigada.
E Hilda Nunes, provedora da Santa Casa da Misericórdia de Paris, o apelo foi lançado. Encontram-se pontualmente no santuário Nossa Senhora de Fátima. O número de telefone ainda não está. Não se pode utilizar dificuldades, de maneira que, precisamente, esse clube dos 25, ainda faltam muitas empresas que possam participar. Vamos deixar agora a região parisiense e vamos até à região de Grenoble, mais concretamente para falar da inauguração oficial da Place de la Révolution d'Isaïe, 25 de Avril de 1974, Portugal, que vai ter lugar na próxima sexta-feira, dia 25 de Abril, na localidade de Saint-Martin-d'Air, no departamento de l'Isère. Digo bem, sexta-feira, na medida em que, confundi com quinta-feira, isso é outra história. Mas, a propósito, há toda uma história para contar sobre esta iniciativa que está ligada à presença da comunidade portuguesa desde os anos 60 nessa região. Ora, a Manuel Branco foi precisamente um dos impulsionadores desta iniciativa e não só.
Sim, nós procuramos ver o ano passado, não é? Quando foi dos 50 anos, de 25 de Abril, criar um coletivo que trabalhou cerca de 2 anos a procurar organizar umas 15 associações, uns 30 cidadãos, à volta do projeto de que era festejar o 25 de Abril, o que permitia fazer aderir pessoas de diversos horizontes políticos, associativos ou culturais. Portanto, não vamos falar do programa do ano passado, mas o ano passado, no programa que houve, foi muito extenso, durou o ano inteiro, ficou uma parte por fazer, que era a inauguração da Praça 25 de Abril, que foi decidida, estava decidida, mas que os trabalhos não estavam acabados. Portanto, na altura, o ano passado, fez-se uma inauguração provisória, vamos dizer, e ficou para este ano, que a praça está acabada, de se fazer a inauguração, que será feita, portanto, este ano, no dia 25 de Abril.
Ora, Manuel Branco quer referir que penso que o maire de Saint-Martin-d'Air quer me referir precisamente alguém que tem um nome de origem portuguesa. Ele tem origens portuguesas, o maire de Saint-Martin-d'Air?
Sim, o pai é português. O pai do Presidente da Câmara de Saint-Martin-d'Air, David Queiroz, o pai é português.
Ora, Manuel Branco, quando se fala dessa região e a comunidade portuguesa, para já há uma história também à qual está ligada o Manuel Branco, lembro, desertor do exército colonial, militante antifascista, foi a criação em 1972 do jornal Alarme, jornal dos portugueses da região de Grenoble.
Sim, foi isso. Nos anos 70, nos princípios dos anos 70, havia uma grande comunidade portuguesa em Grenoble e na região, e portanto nos arredores de Grenoble, Saint-Martin-d'Air. Na altura era uma cidade que devia ter à volta de 20 mil habitantes, hoje tem cerca de 45 mil. E na altura houve dois fenómenos importantes, foi por um lado a criação do campus universitário, começou nos anos 60, e o facto do Grenal ter sido escolhido para organizar os Jogos Olímpicos de 1968. Portanto, isso trouxe para a região de Grenal muitos imigrantes de várias origens, entre os quais muitos portugueses. Alguns deles vinham já da região de Lyon e da região de Saint-Étienne. Outros foram chamados diretamente nas aldeias do norte, nomeadamente no triângulo que Albano Cordeiro teve a oportunidade de estudar, que era o triângulo Braga, Guimarães, Pevidém. A grande parte dos imigrantes vinha dessa região. Portanto, chegou a Grenoble, uma grande parte dos imigrantes dessa altura, e chegaram também meia dúzia de estudantes que tinham recusado fazer a guerra de Pinhão. Eu não cheguei a entrar dentro do exército, fui chamado em 66, recusei-me a apresentar-me à inspeção, fiquei ainda em Portugal cerca de um mês e depois tive que ir para a França. Portanto, esse grupo de uns 6 estudantes começaram rapidamente a entrar em contato com os trabalhadores portugueses, que tinham grandes dificuldades, e nos anos 70 dá-se a criação de um organismo em Grenoble, que é o DTI, apoiado pela Câmara de Grenoble, pelo Presidente da Câmara da altura, que deu um impulso muito grande ao nosso trabalho. Esse trabalho foi-se desenvolvendo com peças de teatro, com cinema, com reuniões de diversos aspectos, futebol, piqueniques, bom, isso tudo. E, a certa altura, a ideia foi de criar um órgão comunicativo que permitisse de contactar essa gente toda de maneira um pouco mais organizada, vamos dizer. E foi decidido, em 72, de se fazer um jornal, que teve a primeira reunião clandestina em São Bartender, no Cartier La Plaine, e que saiu o primeiro número em meados de julho de 1972, para poder ir nas bagagens dos portugueses que iam de férias em agosto desse mesmo ano. Esse jornal depois teve uma grande saída, porque na altura era o jornal dos portugueses da região de Grenoble e passado pouco tempo passou a ser o jornal popular português, distribuído em Paris, na Suécia, na Dinamarca, no Luxemburgo e na Holanda, nomeadamente. E aqui na região de Grenoble, claro, onde era realizado desde a origem.
Ora, Mendonça Branco, com efeito, o jornal foi publicado até 1975. Há instantes falou de Albano Cordeiro, precisamente. Vai haver uma homenagem na Maison de Portugal, na cidade e Universidade Internacional de Paris, no dia 18 de maio, e precisamente vai haver o seu testemunho quando Albano Cordeiro estava em Grenoble. Pode-nos resumidamente dizer um bocadinho aquilo que pensa que vai dizer no dia 18 de maio?
Bem, o que vou dizer, talvez não, porque vai ser lido o testemunho, não poderei estar no dia 18 em Paris, mas vou falar do que conheço do Albano. Portanto, o Albano viveu em Grenoble, eu conheci meados de fins dos anos 60 até fins dos anos 75. Período em que depois ele foi para, meados dos anos 70 para Paris. Portanto, em Grenoble desenvolveu um trabalho de investigador no CNRS, fez um grande trabalho sobre a construção civil e as empresas da construção civil e o trabalho na construção civil, e nomeadamente trabalhou bastante sobre a imigração portuguesa. Era um amigo que desenvolvia um trabalho na base, não era, teorizava um trabalho que fazia na base. Portanto, eu recordo-me de uma altura pagar horas a estudantes com um inquérito preciso que ele elaborou, onde era necessário pôr estabelecer um certo número de questões, e ali ele mandava esses estudantes diretamente para o terreno investigar e notar, para depois, de maneira mais científica, organizar a resposta e tirar estatísticas sobre a imigração portuguesa. Ou seja, é um trabalho bastante organizado e científico. Fez também um trabalho importante que foi na ODTI, é um dos membros que esteve na origem da ODTI. Na altura a ODTI era o Office do Chinois de Travailleurs Immigrés. E ele desde o princípio esteve na origem da ODTI, impulsionou bastante o trabalho da imigração portuguesa a entrar na ODTI, para trabalhar nesse organismo. Pouco tempo depois foi um elemento importante para a criação da Associação Franco-Portuguesa Franco-Portuguesa era o nome. Na altura, essas associações, que eram associações de 1901, não podiam ter uma direção de imigrantes, portanto ele deu o nome para que se pudesse criar essa associação, mas em seguida, claro, dava-nos a liberdade total. Era um passador importante na comunidade, portanto passava a mão e deixava a malta trabalhar. As pessoas podem testemunhar disso, José Carlos, que trabalhava no teatro, outros que trabalhavam noutros tipos de organizações a nível da associação. Foi de facto um impulsionador dessa associação. E depois, a certa altura, mandou vir o pai e a mãe, que estiveram aqui em Hernove, foram vizinhos meus aqui em Hernove, na Croix du Patre. Viveram alguns anos nesse bairro. Ele ocupou-se bastante dos pais. Foi um indivíduo que se ocupou também bastante a nível da luta pelo aborto. Na altura, ele era casado com uma médica que se chamava Annie Ferré, e que era uma militante ativa na luta pelo aborto. E a Annie, a certa altura, foi presa. Houve manifestações em Grenoble a dirigir a libertação dela e tal. Bom, ela era realmente muito ativa nesse trabalho. E a nível do nosso trabalho, por exemplo, da militante, foi sempre um indivíduo que nunca nos procurou saber exatamente o que a gente fazia ou não fazia, mas é evidente que o carro dele estava sempre, o depósito estava abastecido em gasolina e a chave pronta. Cada vez que precisávamos levar o alarme a Paris, estava sempre disponível.
Estava sempre disponível. Manuel Branco, evidentemente, essa homenagem terá lugar no dia 18 de maio na Casa de Portugal, Cidade Universitária. Manuel Branco, muito obrigado, mas para já o encontro está dado no dia 25 de abril, na próxima quinta-feira, às 17 horas, para a inauguração aqui oficial da Place de la Révolution des Œillets, 25 de abril de 1974, em Portugal. Muito obrigado, Manuel Branco.
Obrigado, eu.
Manuel Branco, e aliás, não é quinta-feira é dia 24, sexta-feira é que é dia 25, e abordou-se igualmente a homenagem que vai ser feita a Albano Cordeiro, economista, sociólogo, investigador, militante associativo, que decorre no dia 18 de maio, mas teremos a ocasião de falar disso. Entretanto, pois bem, no que diz respeito às eleições legislativas, o voto é por correio, chamado voto postal. A esmagadora maioria dos eleitores assim o decidiram, e no dia 21 cerca de 50 mil cartas já tinham sido enviadas. Em princípio, serão todas enviadas até o dia 21, ou seja, até amanhã, mas o universo eleitoral faz mais de 1.300.000 eleitores. Veremos quando é que as cartas começam a chegar a casa. E para já posso avançar algo no que respeita à Rádio Off. Arrancamos a campanha eleitoral no próximo domingo, dia 27, às 12 horas. Teremos Emília Ribeiro, cabeça de lista do Partido Socialista, a seguir Teresa Duarte Soares, do Bloco de Esquerda, e ainda José Manuel Fernandes, da coligação AD, PSD, CDS, PP, isto a partir das 12 horas do próximo domingo, dia 27.
dia fez-se abril, como se assim de repente este país despertasse com um destino diferente e tivesse som de cravo a festa de toda a gente. Um dia mudou uma vida, uma noite deu-lhe sentido e houve quem festejasse a sorte de ter nascido, por já não ter que dizer as verdades só ao ouvido. Uma cantiga deu um mote e a esperança deu a senha e bateram os corações de uma forma muito estranha, vendo as armas em flor no rescaldo da façanha. Já passaram tantos anos, tantas águas sob a ponte, mas voltamos sempre a abrir, como quem regressa à fonte, para ver a liberdade a crescer no horizonte. E abril fez-se livro com letras de não esquecer, o Zeca e o Salgueiro Maia e outros homens a valer que partiram muito cedo com tanto para dizer. Que nos ficou, só há uma resposta a dar: foi Portugal que despertou com os capitães da alegria quando o medo acabou, com os capitães da alegria. Acabou.
O tema alusivo, evidentemente, ao 25 de Abril e um dia se fez Abril, de Carlos Alberto Muniz. E de 25 de Abril e comemorações é isso que vamos falar agora. E iremos até onde vamos, mais concretamente, até Estrasburgo. Isto para falarmos da comemoração da Revolução dos Escravos. Esta comemoração decorre no dia 27 de Abril, ou seja, no próximo domingo, na Sala Bon Pasteur, 12 Rue Jean-Sébastien Bach, em Estrasburgo. Exposições, conferência, debates, testemunhos dos que viveram a Revolução. Pois bem, tudo isto arranca às 14 horas. A entrada é livre, há que o dizer. Ora, e a propósito de Estrasburgo, precisamente, queria referir que temos ouvintes em Estrasburgo, na medida em que a Rádio Alfa também é difundida em Estrasburgo e na região, graças ao novo sistema de DAB+. Ora, há que referir que esta iniciativa é organizada em colaboração entre a Associação Cultural Portuguesa de Estrasburgo e o Consulado-Geral de Portugal em Paris. E a propósito desta associação, Isabel Sousa Cardoso, muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Sim, a todos ouvindo.
Muito obrigado. Olha, eu estou a falar com uma radialista, não é?
Exatamente, exatamente. Nas emissões da Voz de Portugal.
Com efeito, e na rádio RBS, por dizer tudo.
Exatamente.
Mas a propósito, Isabel, normalmente devia estar na antena até às 13 horas, não?
Devia estar, mas hoje a nossa emissão, por ser domingo de Páscoa, é feita em PAD. Portanto, gravamos e estamos com os nossos ouvintes, mas também estamos a festejar a Páscoa.
Isabel, a festejar o 25 de Abril para um movimento associativo português e, sobretudo, para a vossa associação. Bom, já lá vão 51 anos. É importante para a vossa associação?
É muito importante. Aliás, devia ser importante para todos os portugueses e para todas as pessoas que gostam de liberdade. 51 anos depois, damos-nos conta que a liberdade pode ser muito, muito frágil. Demora muito tempo a conquistar, mas depois pode demorar muito pouco tempo a perder.
Talvez falar do conteúdo, precisamente aquilo que se vai passar. Bom, dados que eu pude obter, exposições alusivas ao 25 de Abril, concretamente, o que é que vai estar exposto para o público que irá na sala de Bom Pasteur?
Portanto, temos uma exposição de pintura de uma romena casada com um português, que é mais portuguesa do que muitos portugueses, e que fez uns quadros alusivos ao 25 de Abril, que já estiveram expostos também no Consulado-Geral de Paris. E temos uma exposição sobre a história do 25 de Abril, que foi realizada pelo Instituto de Camões. Vamos ter também vários trabalhos de alunos do Liceu Internacional de Pontonier e também do Colégio Vauban, que tem uma secção internacional de português.
Aliás, não é por acaso que aqui em Paris, precisamente, bom, também há há também no Consulado-Geral de Portugal em Paris, são os alunos das secções internacionais, precisamente, que fizeram isso tudo. Ora, as exposições, depois, a conferência, concretamente, o que é que vai haver na conferência dada por quem e com o colega?
Eu não, nem sequer diria que chamamos uma conferência, mas é mais o testemunho de várias pessoas que viveram o 25 de Abril. Quer aqueles que viveram o 25 de Abril em 1974, aqueles que viveram o antes de 1974, mas também os testemunhos do pós-1974, com a presença do Sr. Consul-Geral, do Sr. Embaixador junto ao Conselho da Europa e de vários portugueses residentes aqui em Estrasburgo.
Ainda há pessoas que ficaram aqui, que não foram para Portugal, porque essas pessoas, bom, hoje já têm uma certa idade, não?
Sim, mas ainda há, e penso especialmente a duas pessoas que sempre colaboraram com a nossa associação, que é a professora de português, que agora já está na reforma, claro está, a dona Lúcia Lever, que saiu de Portugal justamente por causa da ditadura e onde não podia exercer o qual para qual estudou, e o senhor José de Jesus André, que era jovem estudante nessa altura e que sofreu várias intimidações justamente por ser instruído e fazer parte um bocado da juventude que recusava ir
para fazer a guerra colonial, pois.
Exatamente. Era daqueles jovens que recusava isso e que justamente veio para a França para ir para as colónias.
Ora, Isabel Sousa Cardoso, desde o 25 de Abril já lá vão duas gerações. Como é que os jovens de origem portuguesa aí em Estrasburgo, eles veem o 25 de Abril, será? Bom, vocês como associação estão em contacto com esses jovens, como é que eles veem isso para eles? Bom, o 25 de Abril, bom, é muito bonito, não sei o que, fala-se nisso, mas que significado tem para os jovens de hoje?
Há alguns jovens que não conhecem a história do 25 de Abril. E quando se diz que há 51 anos não havia a liberdade que há hoje, e que muitas vezes se lê nas redes sociais estamos numa ditadura, os governos não são bons, quer em Portugal, quer em França, não é? E até mesmo penso em toda a Europa. Eu acho que as pessoas nunca viveram realmente o que é ditadura. Eu também não vivi, mas tenho os restos de, por exemplo, o meu avô, que nasceu na Primeira Guerra Mundial, e que viveu a ditadura, e uma das coisas que ele me dizia sempre era o direito de voto e de votar, porque antigamente nós não tínhamos esse direito. Portanto, eu acho que os jovens desconhecem um pouco aquilo que é a realidade e que festejam 25 de Abril como a revolução dos escravos, sem saber muitas vezes exatamente o que esteve por trás dessa revolução dos escravos.
Ora, eu acho que estava a guardar a memória, já temos connosco em linha Rui Ribeiro Barata, Conselheiro das Comunidades, eleito na área consular de Estrasburgo e Presidente da Comissão Temática para Questões Consulares e da Participação Cívica. Rui Ribeiro Barata, antes de mais, muito boa tarde.
Olá, viva, boa tarde a todos, boa tarde a todos.
Ora, como Conselheiro das Comunidades é importante precisamente salvaguardar a memória, sobretudo, que consola o 25 de Abril, foi o fim da ditadura fascista.
Obviamente, Artur, nós temos aqui uma grande responsabilidade, nós, enquanto comunidade, enquanto portugueses, ainda mais residentes no estrangeiro, distantes do nosso país natal e da origem, qualquer tipo de evento que seja ele cultural, desportivo, folclórico, que tenha no fundo, e que abrace no fundo a memória do 25 de Abril, das conquistas, da Revolução, e da conquista pela liberdade são importantes, ainda mais quando estamos longe do nosso território. E é engraçado que, falando com a comunidade, por vezes as pessoas, tanto em Portugal como que moram no estrangeiro, por vezes valorizam até mais e comemoram mais esta data do 25 de Abril do que propriamente o dia de Camões das comunidades portuguesas e de Portugal, o 10 de Junho. Ou seja, porque há aqui uma também... Há aqui uma identidade por trás disto e as pessoas revêem-se às vezes e conhecem melhor, não é? Também pela proximidade histórica, os acontecimentos do 25 de Abril de 1974 do que propriamente a data em que o nosso poeta-mor Luís de Camões terá nascido, não é? Mas pronto, são importantes e é óbvio que aqui na área consular de Estrasburgo, a Associação Cultural Portuguesa de Estrasburgo faz um trabalho enorme nesta área, mas também como outras também que na área do folclore, do desporto, aproveitam esta data e este simbolismo para ter aqui um conjunto de atividades em torno da liberdade e também do regresso da democracia portuguesa em Portugal e como no estrangeiro também, claro.
Ora, Rui Ribeiro Barata, vale a pena relembrar que o 10 de junho era o dia da raça, de maneira que o salazarismo, o Salazar e mesmo depois com o seu sucessor, o Sr. Caetano, dia 10 de junho, aí vinham caminhonetes e caminhonetes da província para que a Praça do Comércio, e não só no centro de Lisboa, estivesse Lisboa cheia, e era nesse dia que se condecoravam, sobretudo, as viúvas, as mães ou os pais dos soldados que morreram durante a guerra colonial. Mas enfim, bom, 10 de junho funesto, mas enfim, bom, a propósito de 25 de Abril, há instante a Isabel falou do direito de voto. Ora, os boletins de voto estão a chegar à casa dos eleitores. Uma pergunta diretamente para Isabel, a vossa rádio vai acompanhar isso, vai entrevistar candidatos, o que é que vocês preveram?
Normalmente sim, temos pena de não conhecer todos os candidatos que estão propostos nas listas eleitorais, porque a informação é quase secreta. Não digo isso positivamente, mas é difícil conhecer todos os candidatos. Já temos dois candidatos que vão estar presentes na nossa rádio, por telefone e pessoalmente, mas esperamos ainda até ao fim da chegada dos envelopes ter a oportunidade de contactar outros também, e tentamos sempre partilhar. Normalmente o Luz ao Jornal faz sempre um trabalho de casa muito bem feito, e a Rádio Alfa também, e normalmente nós costumamos partilhar sempre todas as atividades e a divulgação de todos os candidatos.
Ora, o que eu posso anunciar para já é que nós aqui a nível da campanha eleitoral vamos arrancar já no próximo domingo, dia 27, Teremos a cabeça de lista do PS, Emília Ribeiro, cabeça de lista do Bloco de Esquerda, Teresa Duarte Soares, e igualmente José Manuel Fernandes, cabeça de lista da coligação AD, PSD, CDS, PP. Bom, e vamos continuar assim até o dia 11 de maio, se toda a gente responder. Senhor Conselheiro, eu vi no Facebook que já tinha falado nestas questões, na questão de para poder consultar mesmo, ou saber onde é que está, em que caminho, bom, que caminho é que está a passar a carta, de maneira que como Conselheiro das Comunidades mantém-se alerta e mobilizar os eleitores, não?
Claro que sim, Artur. E é verdade que é sempre importante perceber de que estas eleições há sempre várias dezenas de partidos candidatos, não é, a estas eleições legislativas. Mas temos que ter em atenção que no estrangeiro nem todos os partidos conseguem apresentar, infelizmente, candidatos. Por isso esse é um ponto também importante, há que alertar as pessoas de que na nossa área de jurisdição, na nossa área de eleição que é a Europa, há partidos que não vão apresentar candidatos, por isso não vale a pena, digamos assim, estar a votar nesses partidos. Acho que é extremamente importante que os partidos tenham uma presença no estrangeiro e estejam estruturados. Infelizmente, só os grandes e os partidos mais históricos em Portugal é que conseguem ter essa dimensão e essa estrutura. Estamos aqui a falar em partidos como o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, neste caso o AD, o Bloco de Esquerda, o PCP. Estes partidos mais históricos conseguem ter esta presença distante, que é tão difícil de se conseguir ter e de se manter no tempo, mas esse trabalho é importante porque só assim vamos conseguir sensibilizar mais pessoas a participar nestes atos e a ter uma maior difusão da informação. Claro que é, aqui a comunicação social tem um trabalho importantíssimo, o Conselho das Comunidades, os consulados, enfim, aqui nós temos todos em conjunto trabalhar no sentido de informar as pessoas, não se esquecerem de participar nestes eventos. É óbvio que nós, na Comissão Temática dos Assuntos Consulares de Participação Cívica, acompanhamos de perto, vamos aqui, estamos a finalizar um documento de elaboração de questões a enviar a todos os partidos que se candidatam, mas mais uma vez temos aqui uma dificuldade enorme, nós vamos enviar a todos os que se candidatam, sabendo que, dente de mão, que vários não vão apresentar candidatos, mas pronto, para nós é importante saber no fundo o que é que os partidos propõem nas áreas que nos dizem respeito e que mais nos interessam, que é as áreas das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Depois também é óbvio, é verdade que os envelopes já começaram a ser enviados, nem todos foram, 1.600.000 envelopes, como imaginam, demora vários dias a que isso seja processado, posto nos envelopes e que possa ter sido enviado, mas há um portal interessante, que é o portal Eu Eleitor, em que aí têm várias informações, nomeadamente podem acompanhar a sua carta, saber onde é que ela está, se ainda se encontra em Lisboa para distribuição dos Correios, ou se já se encontra em Paris para distribuição em toda a França, ou pior do que isso, se está presa em algum sítio, como infelizmente sabemos em vários países do mundo, que isso continua a acontecer. E é verdade, Artur, nós temos aqui um trabalho também, uma responsabilidade, que é continuar a denunciar estas situações para que o nosso país perceba de uma vez por todas de que o voto por correspondência pode funcionar, mas não funciona em todo o lado, e sendo discriminatório para alguns, não pode ser o método que a gente tem que continuar a adotar para participar e para possibilitar os portugueses residentes no estrangeiro a participar nas eleições em Portugal.
Aliás, essa vai ser uma das perguntas que vamos pôr. Eu não, vai ser o Vítor Gabriel de Oliveira, que é o presidente do Comitê Regional da Europa, que irá fazer essa pergunta aos candidatos, não sou eu. Mas enfim, a Rui Ribeiro Barata, muito obrigado, e já agora esse questionário gostaria que nos pudesse enviar uma última pergunta, resta-nos 3 minutos, Isabel Sousa Cardoso, trabalho errado, sabe como é que é? É uma pergunta, o ano passado, 2024, a Associação Cultural Portuguesa de Estrasburgo teve um subsídio de 550 euros. Conhece o montante do subsídio para 2025?
Por acaso saiu já esta semana ou semana passada. Uhum. Aparentemente vamos ter um subsídio de 1.350 euros.
Quanto? Peço desculpa.
1.350 euros.
Então foi quase multiplicado, foi multiplicado por 2,5 então?
Sim, mas os 550 euros já não foi em 2024, já foi em 2023.
Ah, peço desculpa.
Portanto, em 2024 não recebemos absolutamente nada. Mas pronto, mas culturalmente é importante que o Estado português continue a apoiar as associações e sobretudo as pequenas estruturas associativas que sem esses subsídios é quase impossível culturalmente divulgar a nossa língua, a nossa cultura, a nossa gastronomia, o nosso passado e, sobretudo, também o nosso futuro.
Eu tenho a impressão que a Isabel resumiu tudo, não é? Em algumas palavras. Talvez aquilo que disse deveria chegar às orelhas do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, do Secretário de Estado das Comunidades.
Bom,
a lista não é restritiva relativamente a isso.
Não.
Isabel Sousa Cardoso, muito obrigado. Não pude assegurar.
Pois.
Obrigado igualmente ao Rui Ribeiro Barata e estamos a acompanhar o vosso trabalho. Bem-ajam, tanto mais que antes do início desta entrevista disse que a Rádio Alfa também pode ser captada na zona de Estrasburgo, graças a DAB+. De maneira que um grande abraço aí, por Estrasburgo.
Obrigada,
Artur.
E até...
Feliz Páscoa aí a todos.
E muito obrigado igualmente. E até muito, muito breve. E a propósito, brevemente, aqui fica um cheirinho apenas, da canção que foi difundida, precisamente, sensivelmente, à volta da meia-noite, já estamos a falar de 24 para 25, hein? Paulo de Carvalho.
Quis saber quem sou, o que faço aqui. Quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, tristeza e fim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim. Partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Em flor, eu te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci. Depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Artur Silva.
E a segunda hora, deuxième heure de Passagem de Nível, c'est dimanche 20 avril. E on va te accompagner jusqu'à 14 heures émission avec rediffusion la nuit du mardi au mercredi à partir de 0 heures, sans oublier le podcast. Et on va parler dans le livre, les passeurs de révolte, étudiants et intellectuels et étrangers postcoloniaux dans les années 1968, édition presse universitaire de Rennes. On a deux invités qui ont participé avec des articles concrètement pour cette une tribune, pour l'autre c'est la deuxième partie, c'est rencontre, mais enfin, bon, déjà, Victor Pereira, bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle, vous êtes docteur en histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Paris, mais également et actuellement, vous êtes plutôt dans l'Institut de l'histoire contemporaine de l'Université Nouvelle de Lisbonne. Alors, ce livre, d'ailleurs, si on regarde un petit peu l'introduction et même la préface, on peut dire que l'influence des étudiants étrangers en mai 68 n'a pas été négligeable, en quelque sorte.
Elle n'a pas du tout été négligeable, d'une part, et d'autre part, même le Raymond Marcellin, qui est ministre de l'Intérieur, qui réprime ensuite le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier, va inventer un complot étranger, notamment ce qui va amener de nombreux étrangers intellectuels et ouvriers ou étudiants également à être renvoyés ou expulsés. Il y a notamment quelques Portugais qui vont devoir se réfugier pour beaucoup en Italie, pour parce qu'ils craignent d'être arrêtés et voire renvoyés au Portugal. Et c'est un des rares moments où la répression est tellement intense qu'il y a des Portugais dont on suspecte qu'ils ont participé aux événements de mai-juin 68, notamment à Lyon, qui sont mis dans un avion et renvoyés au Portugal. Et évidemment, quand ils arrivent au Portugal, ils sont accueillis par la police politique, voilà, qui les interroge quelques jours.
Alors, Victor, on aura l'occasion. On va commencer peut-être par votre tribune, parce que ça commence par l'occupation de la maison des étudiants portugais, qui a été après baptisée Maison des travailleurs et des étudiants portugais. Mais on va parler d'un aspect, justement, des années 68, qui a été passé souvent sous silence. C'est peut-être pas un hasard, justement, avec nous, Maira Abreu, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'être avec nous, Maira Abreu. Vous avez écrit un article, je lis le titre, « Penser un féminisme à partir de l'Amérique latine, mobilisation des femmes latino-américaines en Europe dans des années 1968 ». Le moins qu'on puisse dire, justement, c'est que la mobilisation des femmes immigrés, notamment l'Amérique du Sud, là, ça a été complètement invisibilisé. C'est exprès. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on mette de côté, parce qu'elles ont eu un travail important, mai 68, mais par rapport également aux dictatures dont elles ont été obligées de fuir.
Oui, effectivement, je cherche à mettre en avant cette mobilisation féministe de femmes latino-américaines dans ce qu'on appelle les années 68, parce que cette présence et cette mobilisation a été un peu oubliée. Donc elles ont été nombreuses, elles ont fait plusieurs groupes de latino-américaines en France, non seulement pour dénoncer la dictature dans leur pays d'origine, mais aussi pour penser en féminisme à partir d'un point de vue latino-américain. C'est que impliquait des décentrements par rapport au féminisme européen.
Alors, votre article commence, je vais le lire. « Les mobilisations des femmes immigrées subissent une double invisibilité à la croisée de deux catégories historiquement associées au masculin, l'engagement et l'immigration, et encore plus l'exil politique. Ces femmes et leur militantisme sont restées dans l'ombre pendant longtemps. Mais ma question, c'est pourquoi est-ce que, bon, c'est vrai que, il suffit de regarder ce qui s'est passé au Portugal. Le 25 avril, on dirait qu'il n'y a que des hommes qui ont fait le 25 avril. Bon, c'est complètement faux, parce que les luttes des femmes ont été déterminantes aussi. Mais par rapport à cette question, Maira Abreu, comment expliquer, comment justifier ça?
Cette invisibilisation, vous dites?
Oui, tout à fait, oui.
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Donc, d'abord, celle que j'ai essayé d'évoquer dans mon article, on associe toujours les militants à un homme. Et pendant longtemps, on a associé aussi la figure de l'immigré à un homme également. Donc, ces femmes qui étaient à la fois immigrées et militantes, elles ont paru sous la même attention que les autres immigrés et militants. Mmh. Et c'est qu'à partir des années 70, qu'à partir du moment des révolutions féministes et ensuite des études de genre dans les universités, qu'on a commencé à regarder plus la figure de la femme immigrée Donc, et le militantisme, l'engagement des femmes, donc le VR mouvement, qui n'était pas visible, et avec des actions que parfois n'étaient pas considérées comme des actions militantes. Par exemple, les femmes ont souvent accueilli des exilés qui arrivaient. Elles ont cousiné des plats qui étaient vendus dans de, par exemple, des fêtes comme la fête de l'humanité pour recueillir de l'argent. Donc elles ont fait des actions qui ne sont pas perçues comme étant des actions des activités qui ne sont pas perçues comme des activités militantes.
Mmh. Oui, bon, donc, et en plus... Oui, pardon.
Non, pardon.
Non, je vous en prie, continuez.
Donc, il faut aussi déconstruire cette idée de qu'est-ce que c'est l'activité militante et pour découvrir des femmes qui étaient là, qui étaient présentes, mais qui ont participé d'autres manières de l'engagement.
Oui, parce qu'il y a même un engagement envers les pays qu'elles ont dû quitter à cause des dictatures militaires. Hein, je pense à la dictature militaire brésilienne, entre autres. Mais revenons, les étudiants portugais en France, mai-juin 1968. Alors, Vitor Pereira, votre tribune commence dans la matinée du 23 mai 1968. Le directeur du Centre culturel portugais à Paris, Joaquim Veríssimo Ferrão, envoie un telex à la Fondation Costa Gomes à Lisbonne pour informer que la maison des étudiants portugais qui dépend de la Fondation a été occupée hier soir à 19h30 par 40 prétendus étudiants français, espagnols et portugais et quelques travailleurs. Alors, ce n'est pas pour rien que vous commencez votre article par rapport à cet épisode, mais c'est un épisode important dans l'engagement, entre guillemets, des jeunes d'origine portugaise pendant mai 68.
On ne peut pas résumer l'engagement des étudiants, des intellectuels portugais en mai 68 à cela, mais c'est important parce que c'est à la fois très pratique, parce que c'était cette maison des étudiants portugais dans la cité universitaire de Paris, donc dans le 14e arrondissement. C'était vu un peu comme une base arrière des luttes où, à partir de là, on distribuerait des tracts, où les gens viendraient suivre les mots d'ordre pour ensuite aller aux usines au petit matin pour essayer d'amener les compatriotes portugais, les ouvriers portugais à suivre le mouvement de lutte et à ne pas travailler, à ne pas être des jeunes, comme on disait à l'époque. Et c'est aussi très symbolique, une des banderoles qui est affichée devant la maison, c'est ici, cette maison est le premier territoire libre du Portugal. Donc c'était vu comme le début de la libération de la dictature portugaise. Donc il y a eu, pendant ces quelques 20 jours d'occupation de la maison, il y a eu des concerts, il y a eu des débats, il y a eu des assemblées générales, il y a eu une pièce de théâtre, le fantoche lusitanien. Donc il y a eu une effervescence qui est assez caractéristique de mai 68 avec une libération de la parole, mais aussi cette idée qu'il fallait aller vers les travailleurs, que ce mai 68, ce mai-juin 68, était pour rompre les chaînes du capitalisme et de la dictature et l'impérialisme.
Mais c'est l'impression que ça donne. Bon, c'est vrai que les étudiants d'origine portugaise, ils sont allés distribuer des tracts qui traduisaient en portugais dans les bidonvilles, dans la grande concentration de portugais. Mais toujours est-il que, bon, d'après l'article, d'après ce que j'ai pu comprendre, le lien justement entre les étudiants et les travailleurs portugais a du mal à passer. Il n'a pas eu lieu, je crois.
Alors c'est toujours difficile, on parle souvent des rencontres improbables mai 68, c'est-à-dire que cette possibilité qu'il y a eu parfois dans certaines usines ou dans certains lieux à se faire rencontrer des gens qui ne se rencontraient pas souvent, c'est-à-dire notamment des étudiants qui venaient de milieux plus favorisés et des ouvriers. Et effectivement, comme vous dites, il y a eu des tentatives de distribuer des tracts dans les bidonvilles ou à la sortie des usines, notamment à Citroën, à Renault. Il y a des fois où on sent qu'il y a eu ces rencontres improbables, notamment à Renault-Billancourt. Quand on voit les photos de l'époque, on voit des affiches en portugais. On voit que des Portugais ont participé aux grèves, aux occupations. Après, Renault-Billancourt était un lieu où il y avait beaucoup de travailleurs déjà politisés au Portugal. Mais il y a aussi eu un énorme mouvement de peur en France parmi les Portugais qui craignaient de se retrouver au milieu d'une guerre civile. Certains se rappelaient pères, d'oncles qui s'étaient retrouvés en plein milieu de la guerre civile espagnole 30 ans seulement auparavant, et beaucoup étaient venus en France pour gagner de l'argent, n'étaient pas venus en France faire la grève ou participer à des manifestations et donc ont essayé de travailler au maximum. Mais il faut encore continuer à faire des recherches fines sur d'usine en usine pour voir si parfois les mots d'ordre des ceux qui ont participé aux manifestations et aux grèves n'ont pas pris. Et notamment ce que j'ai dit tout à l'heure sur ces ouvriers de Lyon qui ont été renvoyés, en fait on se rend compte que c'est des ouvriers qui viennent de la campagne, qui travaillent à l'usine et qui sont sûrement été aux abords de manifestations ou de confrontations et qui ont été repérés par la police et donc renvoyé au Portugal en juin 68.
Oui, d'ailleurs, je pense que la CFTT s'est mobilisée pour qu'un de ces ouvriers-là puisse revenir en France. Maël Abreu, c'est très important parce que quand on parle de mai 68, il faut voir le contexte aussi parce que dans d'autres pays européens, il y a eu, bon, un mai 68, peut-être pas pareil, et là, je pense que c'est le mouvement des femmes, même mouvement, bon, c'était pas aussi structuré ni organisé que ça, des femmes latino-américaines, bon, il y a plein de choses qui se sont passées au niveau de l'Europe, non?
Et il y a où de je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais il y a où des initiatives des femmes latino-américaines pour soutenir des femmes d'autres pays européens? Donc je pense à une plus particulièrement. Donc ce sont notamment des Brésiliennes qui ont organisé une campagne de soutien pour ce qu'on appelait en France les trois Marias. Donc Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Hort et Maria Velda Costa, qui ont écrit Novas Cartas Portuguesas. Mm-hmm. Et donc, elles ont non seulement dénoncé la dictature dans leur pays d'origine, mais aussi dans d'autres pays européens, notamment au Portugal. Et cette campagne a été très importante. Elle est devenue, en fait, un mouvement international, et avec des actions aux États-Unis, au Japon, dans plusieurs pays en Europe. Et ça a été considéré à l'époque comme la première mobilisation féministe internationale de ce qu'on appelle la deuxième vague de féminisme.
Oui, en 1972, sauf erreur de ma part.
Oui, tout à fait.
Alors, mais Madame Léon, tout à l'heure j'ai parlé justement, les femmes latino-américaines ont dû s'exiler en France, parce qu'il y avait des dictatures. Finalement, leur combat, parce que je mets ça dans le même point de vue que les autres militants hommes, leur combat, c'était aussi pour parler la situation dans les pays d'origine et essayer d'avoir un soutien de la part du mouvement 68, des étudiants, mais pas seulement, par rapport à la lutte des peuples qui vivaient sous la dictature militaire en Amérique latine.
Oui, elles ont plusieurs actions. Elles ont soutenu des militants et les luttes au Brésil et dans d'autres pays en Amérique latine. Mais elles ont aussi dénoncé, elles ont aussi participé à des mobilisations en France, comme pour la légalisation de l'avortement, parmi d'autres. Et elles ont apporté un point de vue latino-américain, c'est-à-dire elles ont essayé de dire que la légalisation de l'avortement, elle doit être articulée avec d'autres luttes dans le contexte latino-américain, par exemple contre les stérilisations forcées, que c'était une problématique qui n'existait pas en Europe. Elle existait dans des territoires outre-mer et dans des pays, comme on appelait à l'époque, de tiers-monde.
Mais je pense aussi, Madame Bello, que leur lutte, bon, il y a des choses concrètes, et ça c'est très important, parce qu'ils ont eu un rôle important dans la lutte pour le féminisme dans le bon sens du terme. Attention, parce que c'est un mot que parfois les gens l'utilisent pour critiquer justement l'émancipation des femmes, mais ça n'empêche, parce que quand on parle de domination, attention, hein, domination de classe, de race, de genre, etc., 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 et les femmes latino-américaines étaient victimes de ça aussi, sans parler du patriarcat et tout ça.
Oui, et elles essayaient de montrer qu'il fallait penser sur plusieurs formes de domination, et elles n'utilisaient pas, bien évidemment, le concept d'intersectionnalité, mais qu'il fallait penser ensemble. Donc, la lutte féministe devait aussi faire face à l'impérialisme, par exemple, dans le contexte latino-américain. C'est parce que c'est cet impérialisme qui imposait des mesures de contrôle des natalités dans cette région. Donc, qu'il fallait penser aussi le racisme, parce que c'était souvent des femmes qui étaient racisées, donc des femmes amérindiennes, des femmes noires, qui subissaient ces mesures de stérilisation sans autorisation et sans consentement. Mmh. Donc, je pense que ces luttes devaient penser d'une manière articulée pour ces féministes.
Mmh. Alors, Victor Pereira, les étudiants et les ouvriers qui ont passé PMS 78 et les partis politiques, là, il y a eu un gros problème, à commencer par le PCP, parce que le PCP, entre autres, hein, il y avait ici exilé, caché à Montreuil, de Overcugnal, donc là, il y a eu des chocs énormes, pas seulement idéologiques.
Tout à fait. Bon, ça rejoint également la position du Parti communiste français, qui était un peu dubitatif. Pour ne pas dire autre chose vis-à-vis de ce mouvement étudiant, au début il y a ces critiques vis-à-vis de Daniel Cohn-Bendit qui représente les anarchistes et qui sont très critiques vis-à-vis des dits révisionnistes, donc c'est-à-dire le Parti communiste. Donc il y a déjà cette réticence face à ces mouvements spontanés, non organisés, qui dépassent les syndicats et notamment la CGT. Et dans le cas du Parti communiste portugais, il y a une autre chose, c'est la grande crainte qu'en France, il y ait des agents et des informateurs de la police politique, et que donc participer à une manifestation, participer à une occupation, c'est remettre en cause et mettre en péril la structure clandestine du Parti communiste portugais. Et donc les militants et les fonctionnaires du Parti communiste portugais qui étaient en France avaient eu pour consigne de ne pas mettre les pieds à la maison des étudiants portugais, de ne pas mettre les pieds à la Sorbonne, à l'Odéon, et de ne pas être repéré par les informateurs. Donc il y a à la fois une opposition politique, idéologique, mais aussi très pratique, qui est la crainte de la répression et de la remise en cause de l'appareil clandestin du Parti communiste portugais à Paris, en région parisienne.
Bon, au Portugal, il faut le rappeler, et d'ailleurs, vous avez écrit là-dessus, justement, c'est que le PCP disait, il ne faut pas déserter l'armée coloniale, il faut l'infiltrer, etc., etc. Merci à tous les deux. Alors, je pense que vous avez eu le livre, l'ouvrage, je rappelle, Les Passeurs de Révolte, étudiants intellectuels étrangers postcoloniaux en France dans les années 1968, publié par Presse Universitaire de Rennes. Alors, est-ce que je pense que vous avez lu les articles les uns et des autres, donc un regard croisé. Quelle était votre première impression, Mayra Breon?
Moi, je m'y connaissais à la mobilisation des Portugais pendant ces événements. Donc, pour moi, c'était une découverte très intéressante. Et moi, je me posais la question des liens possibles entre les Portugais et les Brésiliens, parce que la maison du Brésil, elle se situe à côté de la maison du Portugal.
Tout à fait, oui.
Et donc, et je pense que c'est très important, par rapport à l'intégralité du livre, de montrer que cette période d'effervescence politique, elle est loue en général à partir du prisme français, mais qu'il faut aussi penser à la participation des étrangers dans ces événements.
Victor Pereira.
Deux points. Le premier, c'est effectivement la maison du Brésil à la Cité Universitaire, est juste à côté de celle du Portugal. Et il y a notamment des militants qui avaient organisé l'occupation de la maison du Portugal, qui ont participé à l'occupation de la maison du Brésil, et même à un interrogatoire de son directeur qui était suspecté d'être un agent de la police de renseignement brésilienne. Donc il y a eu évidemment des liens assez forts et qui sont noués même à titre individuel entre étudiants exilés brésiliens à Paris et des étudiants portugais. Et deuxième point, effectivement, le travail de Mara Abreu et d'autres auteurs sur le point du... C'est une question qui est encore un peu négligée dans les études sur l'exil et l'opposition portugaise, qui est souvent une exil et une opposition qui se fait au masculin, qui est dite au maxulin. Parce que, et notamment, c'est justement un des combats des féministes, c'est que souvent les mouvements marxistes prétendent défendre ou protéger les prolétaires et mettre à bas le capitalisme. Et la question de la domination des femmes et du genre est souvent mise dans un second plan. C'est pour après la révolution. Et évidemment, c'est une des choses qui est souvent oubliée. Et même, alors qu'on sait qu'à Paris, notamment, il y avait une des auteurs qui était très important au Portugal pour la lutte des femmes, qui est Maria Lamas, qui, comme si on reprend ce que disait tout à l'heure Mère Abreu, qui est très important, elle vivait dans le quartier latin, dans une chambre d'hôtel, et dans beaucoup de mémoires, il y a son rôle d'accueil, de soutien à des étudiantes et des étudiants, à des exilés et des exilés, qui arrivaient à Paris, et c'était souvent une des personnes qui les aidait jusqu'à son retour au Portugal, après l'arrivée de Caetano au pouvoir.
Mmh. Mère Abreu, je vous remercie, bien entendu. Bon, le livre, on pourrait passer une heure, mais enfin, l'invitation est là pour que vous veniez dans les studios si c'était possible. Merci, Mère.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci et à très bientôt. Merci également, Vitor Pereira. Et parmi les gens, bon, j'ai pas cité, il y avait João Quintel, etc., etc. Bon, mais bon, c'est quelqu'un que j'ai connu, hein, parce qu'à l'époque, justement, les jeunes, ils étaient beaucoup veilleurs de nuit, et avec João Quintel, veilleurs de nuit dans un petit hôtel à Montparnasse, c'était open bar. Je sais pas qui c'est qui payait, mais c'était open bar. Bon, c'est une autre affaire.
C'était le Ponant, non? Je ne veux pas entrer dans les détails.
Je ne me souviens plus. Ça fait des années de ça. Ça fait plus de 50 ans. Donc, là, j'ai la mémoire qui flanche. Bon, enfin, c'est une autre affaire. Vitor Pereira, merci et à très bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir. Et agora, vamos passar uma canção que ce senhor Donald Trump et ouvia. Tinha os cabelos no ar, bom, vocês estão lembrados do penteado do Sr. Trump. Pois bem, mas com esta canção, então, é que seria o fim. Ouçamos.
Les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, le vent, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves devant, debout, asservies, humiliées, les femmes achetées. Toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Devons nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, seules dans notre malheur, les femmes l'une que l'autre ignorées. Ils nous sont divisés, les femmes et le nos sœurs séparées.
L'hymne des femmes, avec qui? Avec la compagnie Jolie Mom. Grâce à Chance, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, je vais rappeler quand même. ça concerne Parfum de Lisbonne, on parlera au mois de mai. Hein, on laisse ça de côté maintenant. Kayla et tout ça. Alors, je vais rappeler quand même, parce que vous êtes vice-président de culture, vie associative et rayonnement de l'Université de Paris-Nanterre. Vous avez des multiples responsabilités. Vous avez en charge environ 80 associations d'étudiants. Bon, etc., etc. Bon, il y a des coupes budgétaires aussi, on ira. Non, mais déjà, je sais pas si vous avez eu des échos au niveau de l'Université Paris-Nanterre au sujet d'un questionnaire idéologique envoyé par les États-Unis aux universités portugaises, françaises, etc., etc. Alors, tout ce qui touche l'environnement et la diversité, attention, c'est fini. On voit plus de ça. Il a même déjà résilié ou fini avec ça dans le programme avec des universités étrangères. Vous avez eu des échos, ça, à Paris-Nanterre ou pas?
Alors, moi, pas directement, mais
Mais de toute façon, au-delà de cette démarche-là, très, très, très ciblée, je dirais, il y a tout un ensemble d'autres choses qui est marquante, qui va toujours tout à fait dans ce sens-là, en lien justement avec aussi bien les questions climatiques que les questions de genre, la diversité, tout ce qui est en lié au racisme, enfin, tout ce qui peut marquer une particularité autre que celle du comportement voulu par son idéologie, celle de Trump, eh bien, tout cela est mis au ban de la société et surtout, au-delà de cette adresse aux universités directement, il y a aussi l'interdiction même dans les centres de recherche, dans les universités, dans les diverses agences liées pas seulement au climat, mais à la météo. Vous savez que pour déterminer notre météo quotidienne, l'importance des États-Unis est énorme, non ? Parce que beaucoup de choses, hein, beaucoup d'argent dans la recherche, il y a un investissement très important aux États-Unis dans tous les domaines. Et bien évidemment, ça nous rend dépendants. Et si maintenant Trump décidait de couper le financement pour tout ce qui concerne justement ce qui a trait pour nous à la météo, eh bien ce serait très compliqué. Hein. Sans compter même pour prévoir un tsunami. Enfin, vous voyez toutes ces choses-là qui sont quand même fondamentales hein, pour nos prévisions, pour notre salut, je dirais. Eh bien, tout ça est mis à mal. En fait, il a commencé par supprimer des mots eux-mêmes. C'est le langage qui est menacé. Et il a, dans les textes, il ne veut plus que certains mots soient cités dans des articles scientifiques, que ce soit cité dans des projets scientifiques. Et cette action sur le langage, en fait, ça rappelle vraiment en fait, les pires instincts, moi je dirais, du fascisme. Parce qu'il fait fermer aussi bien des centres de recherche, il a fait virer des chercheurs, des personnes. Et donc, si vous voulez, il a même changé quand même le nom du golfe du Mexique, comme vous avez pu en entendre parler. Et donc, on voit, et Google, tout cela, parce que Google, c'est états-unien. Et donc, évidemment, on voit bien là tout un ensemble qui arrive à à des interdictions directes, mais aussi à des effacements. C'est-à-dire qu'il supprime. Donc, c'est de la censure, c'est de l'effacement, et ça devient aussi de la propagande, puisqu'il va vouloir qu'on utilise des termes plutôt que d'autres. Et on voit bien que là, on est dans quelque chose qui est du domaine. Alors, on a parlé de libéralisme ou de libertarien, enfin, on parle de choses comme ça, mais moi je trouve que c'est vraiment déjà une procédure dictatoriale, en fait. Hein.
Mais grâce à bon, il a supprimé le ministère de l'Éducation. Oui. Mais déjà avant lui, des dizaines de milliers d'ouvrages, de livres, ont été retirés des bibliothèques. Alors, pour qu'on passe ce qui se passe actuellement à l'Université Paris-Nanterre, ça donne à réfléchir parce que c'est pas pour rien qu'ils s'attaquent à la culture. Alors, vous, comme universitaire, c'est grave, hein, parce que votre travail comme universitaire, c'est former des citoyens.
Exactement. Oui. Non, en fait, ça rappelle, si on pense à la nuit de cristal où des livres ont été brûlés, actuellement, c'est plus les livres. Il y a les livres directement qu'on va chercher dans les bibliothèques. Et ça, c'est lié. Ça n'a pas commencé avec lui, hein. C'était avant, déjà. Et c'est lié aussi à des procédures en lien avec, soi-disant, la religion, hein. C'est-à-dire qu'on institue une moralité, des comportements, enfin, des choses qu'on a déjà entendues ailleurs. Et là, ce qui est très étonnant, c'est dans un. Bon, il faut voir que les États-Unis, c'est un État fédéral, c'est un continent, c'est un pays énorme. Et donc, évidemment, ça pousse à des comportements locaux qui ne sont pas toujours visibles, hein, bien aussi, et ce qui est très fort, en fait. Moi, je fais ça pour répondre un peu à votre question, je fais une expérience avec mes étudiants de master et mes doctorants, et je leur ai présenté la liste des 70 mots qui ont été interdits par Trump. Mmh. Alors, les 70 mots qu'il a interdits, c'est donc de 70 mots. Ça va de activisme, avocat, discrimination, femme, hispanique minority, sexual preferences, social justice, socio-cultural, systematic trauma, underappreciated. Donc, et il dit, pour cela, il dit erase. Il faut effacer. Et donc, moi, j'ai vu ça avec mes étudiants. Ils m'ont tous dit, mais madame, nous, on ne pourrait pas soutenir nos travaux aux États-Unis, tels que, parce que nos thématiques, elles touchent toutes à ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est en train de, d'interdire aux étudiants de travailler sur ce sujet-là. Pas pour l'instant, mais je dirais qu'aujourd'hui, si on doit présenter un projet de recherche pour avoir des subventions au Brésil,
aux États-Unis,
eh bien, évidemment, on est conditionné par ça. C'est-à-dire que, évidemment, l'argent ne va pas aller forcément là où on voudrait qu'il aille, pour ses recherches en tout cas. Et donc, c'est vraiment une sorte, il est en train aussi de commettre une sorte d'autodafé numérique. Donc, ce sont vraiment aussi les sites web, des pages internet, des index et des bases de données qu'il a fait supprimer déjà. Alors, quand on se dit que, d'abord, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est ChatGPT pour produire, pour faire son travail, hein, d'intelligence artificielle, eh bien, ils vont se basent sur ce qui existe sur le net, hein, c'est-à-dire justement ce site avec toutes les informations que nous on déverse en réalité. Mmh. Eh bien, tout ça, on se rend compte qu'il y a une sorte déjà de contamination de tout ça qui fait que il y a déjà une mainmise très claire qui est faite. Et donc, même par exemple, tout ce qui a à voir avec l'inclusion, sans parler bien sûr des LGBTQI, enfin, le changement climatique, c'est vraiment ça aussi, c'est son dada.
Grâce à Tchantch, on pourrait continuer comme ça. D'ailleurs, on pourrait faire une émission, oui, là-dessus avec plaisir. Mais il nous reste environ 3-4 minutes. Oui. Alors, en France, que je sache, bon, il y a un mouvement qui tend à reproduire les mêmes idées. Et d'ailleurs, les GAFAM, ils sont pleins dedans, hein, avec Monsieur Trump. Mais enfin, mais en France, il y a un autre problème qui, bon, heureusement que c'est pas exactement le même, et heureusement pour nous, s'il s'agit des questions financières. Alors, on est en crise, il y a un grand déficit, etc. Donc, il y a certains secteurs, on commence à couper par là. Alors, au niveau de l'université, je parle là concrètement de l'université Paris-Nanterre, ces coupes budgétaires, comment vous arrivez à gérer tout ça? Parce que, bon, il y a des centaines d'étudiants, il y a, etc., des professeurs, bon, il faut que la machine tourne.
Oui, nous, en fait, notre université, la présidence, pour l'instant, a maintenu, hein, nous avons maintenu le fonctionnement dans notre vie quotidienne, on ne voit pas. On a eu un moment difficile, ça a été celui où il n'y avait pas de budget parce que le gouvernement ne l'avait pas voté. Ça c'est terrible pour des institutions comme les nôtres, parce que ça bloque tout. Mais pour l'instant, si vous voulez, c'est plutôt sur la projection, on ne voit pas forcément totalement clair non plus encore. Hein, vous voyez, tous les jours, on fait avec ce qu'on a, si je puis dire. Et nous, par exemple, dans notre université, on n'a pas changé pour l'instant la procédure de recrutement, etc. Vous voyez, on n'a pas... Mais bien sûr qu'il y a eu des coupes, et qu'on va être obligé de faire des économies là où on peut les faire, là, voilà, où on essaye de les faire, c'est-à-dire on va réduire, je ne sais pas, sur des choses... Il y a des choses qu'on ne peut pas resserrer, c'est tout ce qui a lié, tout ce qui a trait, si on veut avoir l'eau, enfin, toutes ces choses-là qui sont des coûts constants, si vous voulez, pour le fonctionnement d'un établissement comme le nôtre, où il y a quand même presque 36 000 étudiants. C'est quand même énorme. Donc, du coup, tout ça, bien évidemment, on voit bien, mais moi, au-delà, je dirais que, bien sûr, l'université et l'éducation en général, et l'université, parce qu'elle est à la fois l'éducation, mais elle est aussi la prévision, la recherche et tout ça, mais aussi la culture globalement est vraiment serrée au cou. Hein. Et donc ça, évidemment, on ne le voit pas tout de suite. Les effets, ils vont se produire petit à petit, on va les voir. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont des projets qui ne vont pas de l'avant, parce qu'ils sont pas, il y a des réductions qui empêchent qu'ils soient tout simplement mis en place. Enfin voilà, tout ça, on va le voir. Mais pour l'instant, nous, dans notre vie quotidienne, en tout cas à l'université à Nanterre, et je pense que pour l'instant, la part d'université, on ne le voit pas forcément directement. Ça va venir, parce que de toute façon, on est dans un temps où ces domaines-là sont raccourcis du point de vue budgétaire.
Alors, je sais que c'est de la responsabilité de José Manuel Ster, je parle de la chaire Lindley-Sintre, mais oui. Mais vous êtes plein dedans aussi. Et le département de portugais, à un moment donné, il manquait des étudiants. Alors, on pense, et non, c'est la réalité, que la réforme du bac et également du lycée a fait que bon, il y a pratiquement pas de suite après pour des études universitaires au niveau du département portugais. C'est un combat permanent.
Oui, en fait, de toute façon, en fait, bien sûr que c'est un combat. Mais en fait, globalement, on peut dire que ce sont les humanités qui sont attaquées, et puis ensuite, bien sûr, les langues. Il y a deux langues qui sont. Alors l'anglais, bien sûr, est toujours considéré comme la langue première, si je puis dire. Et puis, bon, après, il y a un rétrécissement, y compris d'ailleurs sur l'enseignement, y compris de l'espagnol, hein, où il y a déjà des réductions de groupes. Hein, je ne parle pas seulement de mon université, je parle au niveau national. Et ensuite, évidemment, dans des langues comme le portugais, l'italien, l'allemand et d'autres, évidemment, il y a des réductions non seulement dans les investissements, je dirais, ministériels, mais par ailleurs, on doit dire qu'avec toutes les plateformes différentes qu'il y a eu au fil du temps, c'est-à-dire on avait d'abord post-bac, ensuite on a Parcoursup, et puis après mon master, tout ça aussi, ça contribue au rétrécissement hein, et à la difficulté pour les étudiants d'accéder à l'université, parce que c'est des dossiers difficiles, voilà, c'est des étapes qui vont étrangler un peu hein, tout cela. Mais je dois dire que nous, à Nanterre, pour ce qui concerne les effectifs, nous n'avons pas à nous plaindre. Les choses sont absolument maintenues. On n'a pas de réduction hein, d'effectifs. Évidemment, on ne peut pas comparer un département de portugais avec un département d'anglais. Ça, c'est le cas n'importe où, je pense. Donc, voilà. Mais je dois dire que pour l'instant, de ce point de vue-là, nous, on ne le voit pas, mais ce n'est jamais parti gagné. Parce que tous les ans, il faut recommencer.
Voilà, c'est
tout un travail à faire.
Voilà, c'est un combat. C'est un combat. Et bon, on est là aussi pour vous aider autant que possible.
Merci beaucoup.
Grâce à Chance, merci. Et bientôt, dans 2-3 semaines, reviendra pour parler de Parfum de Lisbonne. Bon, quand on parle de Parfum de Lisbonne, ça me fait rappeler, très tôt le matin, la rosée, même un petit peu de pluie. L'air qui vient du Tage, les parallèles, les grosses pierres à Lisbonne qui dégagent une odeur, un tram qui passe. Bon, enfin, bon, c'est une autre affaire. Merci, à bientôt.
Merci beaucoup, merci, au revoir, bonne Pâques à tous.
Estamos aqui ao direto desta música, até bom, é uma maneira como outra qualquer para poder ver uma exposição. E vamos falar precisamente da exposição que está a decorrer até o dia 9 de maio no Consulado-Geral de Portugal em Paris, comemoração do aniversário do 25 de Abril. Nathalie Afonso, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'être avec nous. Alors, c'est vous qui a orienté et coordonné cette expo. Comment ça s'est passé, le travail? Parce qu'il faut dire qu'il s'agit du travail fait par des élèves de portugais du lycée international Saint-Germain-en-Laye, du lycée Alexandre Dumas de Saint-Cloud et également de la cité internationale Honoré de Balzac à Paris 17e. Comment faire pour mettre tous ces jeunes-là à travailler dans le même objectif?
Tout simplement, on a travaillé avec Isabelle Sébastien de Stuttgart et aussi avec les adjointes Patrice Lavge et Anna Lisette de la coordination. On a pris des rendez-vous avec chaque professeur. Donc pour lycée Balzac avec Piedad Ferreira, Saint-Germain-en-Laye avec Acarla Lorenzo et lycée Saint-Dumas, on a travaillé aussi avec Acarla. Ce qui nous a permis d'avoir des rendez-vous l'année dernière ponctuelle où j'ai pu parler du 25 avril avec les différentes images et représentations qu'il y a eu du 25 avril et donc avec un cours sur l'aquarelle, sur les représentations qu'on pouvait faire. Et je leur ai demandé, suite à ce cours, d'écrire un poème, mais pas un poème influencé soit par les grands-parents, les parents, mais qui leur soit vraiment propre à leur sentiment vis-à-vis du 25 avril. Et on l'a présenté à Signor Consul Général, à Dr. Monica Richebourg, et qu'on ajoute à ma part de l'hiver, à Visconsul. Et voilà, donc on est parti sur le fait que tout cet ensemble de ce travail puisse être exposé au consulat. Donc on a cette chance que ça soit exposé au consulat. Et que suite à cette exposition, avec la collaboration du photographe Philippe Martich, on va réaliser un livre, avec plusieurs copies de ce livre, qui résumera, qui représentera tous les dessins, illustrations et les poèmes faits par les élèves, parce qu'ils pensent que c'est important de mettre en avant la nouvelle génération. Et je pense que c'est un travail qui a été réalisé très conséquent au niveau des illustrations et des textes. Et je pense que de le mettre en ouvrage, ça ferait vraiment valoriser ce travail.
Oui, en même temps, c'est très important que cette nouvelle génération, puisque maintenant, ça fait déjà deux générations, sont passées deux générations par rapport au 25 avril. Donc, ça, c'est très important, surtout qu'il reste un livre. Donc, il s'agit d'expositions de dessins et de textes qui ont été élaborés par les élèves eux-mêmes. Alors, ça, l'expo, on pourra aller voir dans les horaires de jour ouvrable, de 8h45, 12h45, 14h, 16h. 15. Bon, ça, c'est fait. Travail, c'est fait. Une autre affaire, le 3 mai. Alors là, on change complètement de registre. Et là, on parle de l'association portugaise culturelle et sociale de Ponto Combo. Alors, le 3 mai, à 15h, inauguration de la toile, concrètement. Après ce qu'il comprend. La PCS fait grandir l'œillet d'avril.
Oui. C'est en fait l'année dernière, j'avais déjà participé au 25 avril avec la PCS suite à l'exposition du Conseil de l'Europe. Et il y a un tableau qui avait été acquis par la PCS qui va être présent ce jour-là. Mais on va réaliser, je vais réaliser en direct un nouveau tableau qui rend hommage au 25 avril ce jour-là, le 3 mai. Donc je ferai une peinture en direct. C'est une peinture en direct et qui sera en fait une peinture définitive d'extérieur. Donc on est vraiment sur la tradition qu'on a du 25 avril, qu'on a retrouvée durant la Révolution, de ces peintures murales qu'on peut trouver dans tout Lisbonne, dans différents endroits. Donc là, c'est aussi rendre hommage à ce qu'on appelle actuellement le street art. Et donc là, ça sera vraiment juste avant la conférence, un travail en direct. Et c'est un travail que j'aime beaucoup faire. Je l'ai déjà fait au consulat, parce que si vous allez au consulat voir l'exposition, vous verrez toute la verrière a été dessinée par moi et par José Luis Rodrigues. On a fait un travail déjà sur le 25 avril sur la verrière du consulat. Et là, c'est la suite qu'on fait à la PCS, c'est-à-dire que là, on va faire un tableau qui va rester définitivement à Ponto Combo en extérieur, sur le 25 avril.
Donc ça sera à 15h, et comme vous avez parlé tout au long de la conférence, avoir une conférence de débat avec l'historien Yves Léonard sur les œillets de la Révolution, Salazar 2. Le dictateur énigmatique. Nathalie France, bon, on va laisser le consulat. On va laisser Ponto Combo dans le 77. On va jusqu'à Portimão. Qu'est-ce qui va se passer dans cet hangar?
Alors, toujours sur le 25 avril, j'ai eu la chance la semaine dernière d'être accueillie par monsieur le maire Anvar Dil et tout le conseil municipal ainsi qu'Anna Fazernd à Postiment. Ils nous ont vraiment accueillis les bras ouverts. C'est vraiment un accueil magnifique. Et on a eu la chance de visiter le musée, qui est une ancienne fabrique de conserves. Et j'ai eu la proposition, honorable, l'honneur, d'être l'invité du 25 avril l'année prochaine, avec une exposition qui va rendre hommage au milieu ouvrier de Postiment et toute la période de la Révolution, ce qui aura lieu donc durant tout le mois d'avril l'année prochaine dans le musée municipal de Postiment. Donc c'est vraiment un grand honneur, et par là même je voudrais remercier Nathalie Fordelonne, qui est en fait pareil, que j'ai pu avoir cette rencontre avec la commune de Postiment. Et c'est vrai que ça a été vraiment une très belle découverte sur tout ce travail fait de la pêche, des ouvriers et la place de la femme dans ces fabriques de conserverie, et aussi tout le mouvement qu'il y a eu populaire durant la Révolution des œillets.
Mais Nathalie France, vous allez faire tout ça en France, ou est-ce que vous allez sur place pour le...
Alors, ce sera donc une partie en France, une partie qui est en France, et je suis en train de mettre en place également ce qu'on appelle des workshops, des stages, des ateliers qui auront lieu durant l'événement d'avril.
Bon travail, perspective, tout ça, et surtout d'aller au Portugal, oui. Et surtout il fait mauvais hein, là-bas au sud du Portugal, n'est-ce pas?
Alors,
on mange très mal aussi, n'est-ce pas?
Non, on mange super bien, on a été vraiment gâtés, et je serai aussi présente au mois de juillet pour les événements de la communauté portugaise à Montréal.
À Montréal, oui, où vous aviez déjà été il n'y a pas si longtemps que ça, et à l'époque on a même pas dit, bon, pourquoi faire une interview, simplement il y a un décalage horaire énorme, on dirait pas, mais un grand décalage énorme, et vive le Québec libre, bon, c'est De Gaulle qui a dit ça. Nathalie France, merci, donc déjà rendez-vous au consulat du Portugal jusqu'au 9 mai pour voir cette expo, et après le 3 mai à 15h, Association portugaise culturel et social de Ponto Combo. Merci.
Merci beaucoup.
E nós estamos a terminar esta emissão. Um grande obrigado ao Manuel Alexandre. E já agora posso anunciar que a partir da próxima semana o programa Passagem Nível vai ser no seu essencial dedicado à campanha eleitoral para as eleições legislativas antecipadas em Portugal. Assim, eu está no papel, o prometido deve ser devido, não? Às 12 horas teremos Emília Ribeiro, cabeça de lista do Partido Socialista. Às 12h30, Teresa Duarte Soares, do Bloco de Esquerda. E às 13 horas, José Manuel Fernandes, da coligação AD, é como quem diz, PSD-CDS. Trata-se, evidentemente, de candidatos para o Círculo Eleitoral da Europa. Bem-ajam e espero bem estar aqui de regresso no dia 27 de abril.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Artur Silva.